Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà messieurs.
Oui, mais que, comment on boit ça?
Du sec.
Attendez.
Moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Aujourd'hui j'ai de la chance parce que un jour d'été, nous étions en juillet 2021, le milieu frappait malheureusement, on sortait d'un an et demi de confinement et on sentait que les gens avaient bien besoin de se retrouver. Nous étions à Colmar, à la Sommerfest qui a laissé des souvenirs impérissables aux gens. Entre les bons et les mauvais moments, il y avait surtout des bons moments. À partir d'une certaine heure, c'était plus des mauvais moments, mais enfin bon, hein, on ne parle pas des choses. Oh, ça reste entre nous, en fait, au final. Et j'ai rencontré quelques jeunes, ce qu'on appelait les Knegges, ils étaient sur la table des Knegges. Donc pour les Parisiens, Knegges, ça veut dire les jeunes en alsacien. Et il y avait là un jeune qui était là, qui est un peu timide, qui disait pas grand-chose. Et j'ai écouté son pétillant naturel à l'époque, qui s'appelait Funambule. C'était bien ça. Il hoche de la tête, donc c'est bien ça. Et j'avais envie de rencontrer, parce que nous, on rencontre pas que les anciens, on rencontre aussi les jeunes. Et je suis très content parce qu'entre-temps, on se connaît de plus en plus et... On peut dire qu'on est devenu pote et je suis très content, mais je suis aussi content parce que je fais enfin la connaissance de son frère et on a le troisième épisode qui n'est que entre frères. On avait les frères Engel d'Archwiller, on avait les frères Gupp de Heiligenstein et là on a les frères Motz. Salut Nico.
Salut.
Ouais, il pensait que j'allais commencer avec Flo. Ben non. Salut Flo.
Salut Sagitt.
Comment ça va?
Très très bien. Avec ce beau soleil, ça ne peut que aller.
Alors déjà, on a passé un bon moment, on a fait une super partie de barbecue. Mais c'est beau quand il fait beau en Alsace, t'es pas d'accord?
Bah ouais, je peux que être d'accord. Donc, de toute façon, on espère que l'année 2021, on la revit pas en 2022. Donc là, c'est bien parti pour que ce soit pas le cas, donc c'est bon.
Non, et encore moins l'année 2020, hein, parce que l'année 2020, on était enfermés.
Encore plus, ouais.
Donc en fait, le but c'est que maintenant, allez, on va dire qu'on va être optimiste, le Covid est derrière nous, le mildiou, j'espère qu'il sera derrière nous, mais enfin, on n'a toujours pas de pouvoir sur la météo, donc sur le Covid, on a un petit peu de pouvoir, faut mettre un masque, j'ai pas envie. Du coup, on va passer un petit peu de temps ensemble, l'idée c'est de découvrir votre domaine, de parler un peu de vous aussi, de voir votre parcours. Bah, on va commencer par votre parcours. Florent, c'est quoi ton parcours?
Donc moi au départ, j'ai fait des études en tout ce qui est viticulture œnologie. Donc j'ai appris à produire du vin et ensuite à le commercialiser. Et donc en fait depuis 2-3 ans maintenant avec mon frère Nico, donc on a créé notre marque à nous, donc nos vins qui nous correspondent. Donc on a créé une nouvelle gamme avec mon frère justement pour faire des vins nature en relais avec le vignoble historique des parents qui faisait du bio depuis 10 ans. Et maintenant, on le fait à notre sauce. Donc, maintenant, on est à notre quatrième cuvée, qui va bientôt être à déguster. Donc, on va pouvoir évoluer là-dessus et vous faire découvrir.
Alors, toi, ton parcours, c'est quoi, Nicolas?
Moi, mon parcours, donc, aussi dans le domaine agricole, viticole. Après, je me suis orienté donc plus vers le machinisme. Donc, en fait, voilà, je suis plutôt quand même de nature un petit peu réservé, mais du coup, moi, j'ai plutôt besoin de créer, d'être dehors. Mais voilà, on a besoin de marquer quelque chose avec Flo. Donc, marquer quelque chose et faire quelque chose de enfin, on a une vision et derrière, on a besoin de montrer quelque chose à tout le monde. Et notre manière de s'exprimer, c'est ça, quoi. Donc, c'est là, les vins nature, donc, comme il l'a aussi bien dit avant. Donc, moi, j'ai un autre cadre professionnel qui est donc le machinisme, où justement, là, j'ai besoin d'être créatif. Mais à terme, voilà, nos parents, ils sont sur le domaine. Mais derrière, la créativité, elle sera plus autrement là-dedans et plutôt vers... Faire ce qui est vraiment dans la vigne, quoi.
C'est quoi le machinisme? Je connaissais c'est le machisme, mais c'est peut-être pas pareil. C'est quoi le machinisme?
Voilà, là c'est purement agricole, mais dans le cadre extra pro, mais là moi j'ai c'est vraiment viticole, c'est moi j'ai tout le temps besoin de créer quelque chose, donc mon boulot c'est du matériel vraiment purement agricole, donc pour des grandes cultures, mais à la maison, une machine qui est pas modifiée, ça existe plus en fait, parce que continuellement, j'ai besoin de, enfin, ça me plaît pas, faut que je modifie, faut que j'améliore, voilà.
Et... Plutôt un manuel qu'un cérébral.
C'est ça, et il en faut, mais manuel réfléchi. Enfin, voilà, c'est là, on prend du temps pour quelque chose qui n'a pas de plus-value. Comment est-ce qu'on peut faire pour en gagner, quoi, enfin ainsi de suite, et puis voilà, c'est le tempérament que j'ai ou la réflexion que j'ai avec Florent. On peut pas presque se parler sans réfléchir à un nouveau truc, à réfléchir à un nouveau truc, on va dire, enfin je sais pas comment tu vois la chose, Florent, mais
approche-toi peut-être.
Oui. Donc en fait l'idée c'est qu'on a toujours une idée à développer, que ce soit une nouvelle machine, à évoluer un truc, dire ouais, comment on pourrait faire pour améliorer l'efficience, pour justement par exemple l'exemple. Comment combiner le maximum de boulot pour qu'un passage de tracteur soit le moins... L'idée, c'est de passer le moins possible en tracteur. Donc, l'idée, c'est de coupler au minimum deux travaux en même temps. Donc, l'idée, c'est que Nico, lui, il n'a pas de technique. Il sait comment faire, il sait comment souder, il sait comment fabriquer. Donc, lui, derrière les machines, il va les adapter à notre sauce comme nous, on a besoin. Ou il va la créer entièrement. Donc, justement, et ça va nous permettre de pouvoir être le plus performant possible, de faire attention au sol le mieux possible, d'être le moins interventionniste aussi, mais tout en ayant réfléchi que avec la touche humaine et la touche mécanique, on arrive à avoir un bel équilibre.
Mais alors moi je vois de plus en plus de vignerons par exemple qui prennent un quad dans les vignes. C'est quoi la différence entre le quad et le tracteur? T'as une idée?
Le quad, on va dire, c'est un outil à quatre roues qui est motorisé, un moteur, on va dire, plus moto, voilà, etc. C'est une chose qui est en cours de réflexion. Après, clairement, on est plutôt du fait que, voilà, si on passe en tracteur, mais on fait deux passages, ça évite de passer une fois le tracteur et une fois le quad. Donc, on va plutôt jouer pour l'instant là-dessus. On va combiner les deux boulots pour passer pas plus de fois qu'un autre. L'idée, c'est de passer le moins possible en tracteur. Donc, si on y va, on va adapter nos machines pour intervenir le moins possible. Et par exemple, dans les parcelles qui sont juste à côté, on installe des couverts végétaux justement pour couvrir les sols, laisser le moins à nu possible, créer un paillage, créer la nutrition, mais également pour passer le moins possible. Parce que dès qu'on a un couvert, le sol va rester, on va dire, en équilibre sans concurrencer la vigne. C'est toute une symbiose.
D'accord. Et est-ce que, Nico, tu peux me raconter un peu l'histoire du domaine? Parce qu'il y a une transmission entre le père, forcément. C'est le père qui avait le domaine, c'est pas la mère, hein, c'est ça?
Oui, c'est le père. Donc, ça fait maintenant presque 40 ans Enfin, on va dire sur le papier, voilà. Quand on est dedans, c'est plus long que ça. Mais ouais, ça fait 40 ans qu'il gère le domaine.
Le grand-père était dessus aussi?
Oui, bien sûr, ouais. Enfin, il y a encore plus de générations avant. Enfin, voilà, la famille est implantée depuis deux siècles... sur le village. Après, c'est comme souvent, il y avait plusieurs ateliers, il y avait de l'élevage et ainsi de suite, et c'est notre père qui s'est spécialisé.
Et donc, voilà, il a démarré tout petit, hein, il avait peut-être 2 hectares, je crois, il y a 40 ans. Et puis aujourd'hui, on a environ 8 hectares. Et puis voilà, quoi. Mais par contre, on est vraiment spécialisé dans ce qu'on fait, quoi.
D'accord. Et justement, c'est quoi les terroirs que vous avez ? Parce que vous avez des vignes sur Bernardswiller, sur Bar aussi, il me semble ?
Non, on a que sur Bernardswiller. On est donc ou très proche limitrophe au Bernay. Mais on va dire les terroirs sont Bernardswiller, sauf qu'on a différents terroirs sur le même village. Donc selon la direction d'où on va, on aura des terroirs argilo-calcaires, des terroirs argilo-graisseux, des calcaires grès, et également des terroirs de la Marne. Donc on a vraiment toute une palette de terroirs qui sont à portée de main, qu'on travaille dans différents types de secteurs et différents cépages. Donc, comme c'est pour ça que chaque vin qu'on a à la gamme, c'est chaque fois un terroir différent. Pour chaque fois un style de vin différent. Malgré que ce soit rouge, en blanc ou une bulle, le terroir est différent. Donc on aura une pâte différente. Malgré la vinif, on va dire la pâte du vigneron, c'est la même, mais le terroir fait que les vins sont différents.
C'est quoi les lieux-dits de Bernardswiller ?
Bah ici, par exemple, on se trouve au Freiberg. Donc, c'est colline libre. Et là, justement, le vin orange, il vient d'ici. Et vous allez bientôt découvrir, entre autres, le nom de ce vin qui va, du coup, bientôt être dispo. Et voilà, c'est inspiré, justement, du nom du lieu-dit là. Après, on a le Affenberg, le Dorenberg, et puis à chaque fois, c'est les autres terroirs. Donc,
Affenberg, qui est le mont des singes. Et l'autre, c'est ?
Le Dorenberg.
Dorenberg, alors, je ne vois pas comment on pourrait traduire ça. Tu as une idée ?
Je ne sais pas.
Bon, écoutez, les Parisiens, prenez un dictionnaire alsacien français et vous saurez.
Mais pour autant, Affenberg, ce n'est pas traduit littéralement. Oui, on pourrait dire Affenberg. C'est juste en fait une mauvaise traduction d'un nom germanique en français. Et en fait, c'est Aufdemberg, ça veut dire sur la colline, quoi.
D'accord.
La vraie histoire, c'est ça, et voilà, quoi. Après, ça peut faire rigoler dans le sens où, oui, Affenberg, Affen, c'est en allemand, c'est un singe. Donc voilà, mais la vraie histoire, c'est ça, quoi.
Normalement, l'Affenberg devrait s'appeler Aufdemberg, c'est ça ?
Aufdemberg,
ah oui, sur la colline. Quoi.
C'est ça.
Ah bah finalement, hein. Comme on a changé pas mal de choses. Et donc, tu disais, Florent, que c'était gréseux, calcaire et... gréseux, calcaire, c'est ça ?
Donc, on a des terroirs, justement, argile, grès, d'autres argile, calcaire, d'autres où il y a le calcaire et grès qui se rencontrent. Ensuite, d'autres endroits, c'est la Marne qui va ressortir. Donc, on a là, sur les terroirs, on a quoi à s'éclater. Après, voilà, là, on est sur un terroir qui est un mélange de calcaire et de grès. Comme Nico le disait, c'était donc Freiberg, c'est-à-dire champ libre. Pourquoi champ libre ? Parce qu'en fait, le terroir ici, c'est le premier terroir qui a été libéré de la possession de la ville d'Aubernais. Il y a 200 ans, le village de Bernardswiller appartenait à Aubernais. Et donc ici, c'est la zone entre les deux villages qui a été libérée en premier. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça colline libre. Et donc c'est ça qui nous a inspiré pour notre vin orange qui va arriver, qui s'appelle champ libre, où justement, on a une possibilité de liberté d'un point de vue vinification, d'un point de vue choix du vin, de la façon de le faire, mais également du terroir.
D'accord. Je vais te poser une question à toi parce que t'es commercial, mais ce serait bien que tu réfléchisses à ta réponse aussi en tant que plutôt main dans les vignes. Pour quelqu'un qui ne voulait pas parler, je trouve que tu parles plutôt très bien. C'est quoi pour toi un vin nature ?
Un vin nature, c'est un vin où tu te laisses, où le vigneron s'exprime. Tu transpires le terroir, tu le laisses s'exprimer, tu l'accompagnes, tu l'observes, mais surtout tu le laisses faire. Mais comme dit, tu restes en contact. Tu donnes tout le, on va dire, un vin, ça se fait un tiers le climat, un tiers le terroir, un tiers le vigneron. Mais la pâte du vigneron, en fait, on peut avoir un grand terroir, on peut avoir un bon climat, mais si le vigneron il sait pas bosser, ça marchera pas. Et donc nous, l'objectif, c'est de faire le mieux possible de ce qu'on est capable de faire avec les terroirs qu'on a. Et de pouvoir le sublimer, l'accompagner et le faire évoluer au maximum et faire le mieux possible.
Je posais une autre question. C'est quoi pour toi un beau vin ?
Un beau vin ?
Un beau vin, pas l'animal, hein, mais un... Oui. C'est quoi, non, pour toi un grand vin plutôt ?
Un grand vin, c'est déjà, si on connaît de là où il vient, on doit le retrouver dans la bouteille.
Pour toi, le terroir est important.
Ben, c'est la première chose, dans le sens où si on prend la même levure que quelqu'un je ne sais trop où, ben, malheureusement, on va trouver presque la même chose. Tandis que nous, ben, on veut faire tout l'inverse de ça. Où ben, c'est les levures qui sont sur les raisins, c'est elles qui doivent faire vivre le vin, qui doivent le faire démarrer en fermentation, qui est la dynamique derrière. Et c'est là que, ben oui, là, il y aura un beau vin. Parce qu'il ressemble... comment dire, il y a une personne derrière et il y a un endroit, quoi. Et s'il y a pas, si on peut faire le même vin à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, ben pour moi c'est pas beau, quoi. Parce qu'en fait on aura un truc, c'est juste scientifique ou standardisé ou ce qu'on veut, mais c'est pas ça qui, c'est pas beau, quoi. C'est ça que, enfin, ça c'est ma définition, on va dire.
Pour quelqu'un qui voulait pas parler, je trouve que t'aurais bien tort à être moins commercial. Moi, ça, je le laisserai pas, mais juste, je trouve que c'est plutôt pas mal. Putain, pour pas quelqu'un. Hein, t'es pas d'accord?
Ah oui, c'est.
Je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui fait le vin? Le terroir ou le cépage?
Les deux. Comme dit, le cépage, c'est une chose. Après, comme dit notre père, quand il a repris il y a une quarantaine d'années, c'est qu'il a beaucoup sélectionné les terroirs. Donc, il a planté des cépages par rapport au terroir. Donc, ça, c'est super top pour nous. Ça nous permet d'avoir une homogénéité, d'avoir les bons cépages au bon endroit. Après, maintenant, avec le temps, le cépage s'efface clairement. La pâte terroir ressort de plus en plus. Donc, quel que soit le cépage qu'on plante, on a l'impact du cépage qui est moins important, clairement.
On va faire un peu de dégustation géosourcérielle. Après, comme ça, on va essayer de trouver les caractéristiques d'un grès, d'un schiste. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Comment vous voyez cette évolution du vin nature? Alors, je vais mettre la biodynamie, même le bio. Bon, allez, on va mettre le bio. Cette évolution du vin d'Alsace qui a quand même changé en 10 ans. Aujourd'hui, vous avez des bars où on boit quasiment que du vin d'Alsace à Strasbourg, ce qui n'a pas toujours été le cas. Comment est-ce que vous, toi qui étais la Somme en Flash l'année dernière, comment est-ce que tu vois ça?
Je le vois, c'est qu'il y a vraiment un grand renouveau. Il y a un renouveau du vignoble alsacien. Et surtout, que justement, je trouve que comme on est de plus en plus à travailler dans cette optique-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le vignoble alsacien, c'est le vignoble le plus morcelé, le plus diversifié du monde. Donc en fait, rien que sur 200 km de long, on a tellement de personnalités différentes, de terroirs différents, que derrière, on va sortir des vins différents. Donc en fait, on a largement de quoi se faire pour s'éclater. En tant que nous, vignerons, mais aussi en tant que dégustateurs, où on se rend plaisir avec énormément de diversité. Et c'est ça qui est important.
Alors on dit souvent qu'en Alsace, on a tous les terroirs du monde, c'est un petit peu le cas. Le domaine Motz, aujourd'hui, il fait combien de bouteilles?
Aujourd'hui, environ 15
000. Ouais, je sais pas, les frères Motz, vous faites 15 000 bouteilles, c'est ça?
Non, pas encore.
Vous avez scindé les deux? Enfin, vous avez scindé les deux, c'est...
On va dire, nous, depuis le millésime 21, on va être à 10 000, nous. Et nos parents, ils sont à peu près 5 000, et on est en train de d'épurer les stocks de mes parents.
Donc, à un moment donné, ça va être les frères, c'est Florent et Nico qui vont être le phare, le gros phare, le grand phare du domaine Mouette, c'est ça?
Ben, c'est de toute façon un renouvellement de génération, donc derrière, il y aura cette tendance, ça c'est sûr.
Il y aura vos progénitures.
On verra, pas tout de suite.
Je le souhaite. Ah, bonjour. Non, mais c'est toujours intéressant de voir en fait cette transmission. Alors peut-être sur une question un peu plus personnelle, qu'est-ce que tu voudrais garder ou qu'est-ce que tu voudrais dire à ton père ou qu'est-ce que ton père t'a apporté?
Certaines rigueurs déjà, enfin apprécier le travail bien fait, jamais s'arrêter d'observer, enfin tout le temps se remettre en question, quoi.
Vous avez un père qui est quand même ouvert d'esprit et...
Ben ouais, sinon il ne laisserait pas faire. Déjà.
Alors, ouais.
Ce qu'il faut pas oublier, c'est que notre père, on va dire, quand moi j'avais 16-17 ans, Nico en avait 12-13. Bah, on s'est pointé chez lui et dit écoutez, bah non, on fait du bio, quoi. Ok, d'accord, il était en agriculture raisonnée depuis 99, mais passer au bio, c'était quand même voilà, c'est des gamins de 16 ans ou 17 ans, on leur dit écoutez, on fait du bio, voilà, ils nous ont suivis. Je dirais, moi, à mes 18 ans,
Du coup, pareil, on a reçu une pioche. Voilà, il nous a dit, ok, vous faites du bio, les gars.
C'était pour rigoler, mais...
Mais c'était pas si rigolo que ça, hein. Il nous a dit, ouais, écoutez, vous faites du bio, les gars, mais voilà, faudra assumer, quoi. Donc, il nous a vraiment fait confiance là-dessus. Il a toujours été chaud. Donc, on a commencé à faire des vannes nature, comme je disais, on disait à midi, vers 2010. On a commencé à, nous, avoir le nez dedans. Donc, voilà, il a fallu passer la transition bio, donc la conversion. Et maintenant, voilà, nos parents, là, on est un peu plus âgés, on dirait, voilà, on a 20, à 25 ans, il lâche plus les chevaux. Et maintenant, on va dire, comme je dis, on a open bar, quoi.
Bah, en fait, je vais te poser la même question, mais sur la maman. Qu'est-ce que la maman t'a apporté par rapport à ton métier de vigneron?
La communication. Ma mère, c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'exprimer, partager, qui est très, très sociable, on va dire. Plus que notre père, on va dire, à premiers abords. Et donc, c'est ça, cette générosité qu'elle nous a apportée.
Côté timide, un peu, où voilà, c'est... Enfin, mon père, c'est... Il parle pas trop, enfin, un peu comme moi, peut-être, on va dire, même si des fois, apparemment, c'est pas le cas, mais bon, voilà. C'est... Au début, ouais, c'est... On a du mal à parler, ou voilà, mais après, ça va, quoi.
J'aime bien toucher les cordes sensibles. Là, je vois qu'il y a une certaine émotion au niveau de Nico. C'est assez beau à voir. Mais c'est vrai que cette transmission familiale, finalement, un peu souvent on dit oui, mais j'entends souvent des vignerons qui me disent oui, mais tu sais, c'est un héritage. Oui, mais il faut le garder aussi, l'héritage. Parfois, c'est un poids sur vos épaules. Et moi, j'ai pas l'impression que vous avez un poids sur les épaules. Contrairement à d'autres, j'ai l'impression que vous vous amusez, en fait.
Bah en fait, comme dit, on est reparti à zéro, hein, il y a deux ans, même pas. On a créé Flo et Nico, on dit hop, c'est bon, open, on y va, on se lance. On est reparti une feuille blanche comme si le domaine n'existait pas. Et en fait, on a créé notre histoire comme on la voulait. Et en fait, comme dit, nos parents, le domaine, ok, ça fait 200 ans que les mods font du vin, mais ça fait que depuis 2002 que mes parents font la bouteille. Donc on a un vignoble assez récent, d'un point de vue commercialisation. Nos parents, ils savent très bien ce que c'est de créer quelque chose. On n'est pas un héritage X ou Y, on a toujours dû se débrouiller et avoir de la réactivité, c'est ça qu'on garde.
Très bien, on passe à la déguisation parce que là, vous me donnez soif les gars.
Birkin time, les bateaux, Birkin time.
Ah, je suis content parce que c'est vrai que ces dernières années, c'est peut-être la couleur du vin qui me plaît le plus, qui est un vin orange. Allez, on va répéter que le vin orange, je vais essayer de faire mon vigneron. Vous me dites si je me plante. Hein. Donc le vin orange, c'est un vin blanc qui a été vinifié comme un vin rouge. Et donc on va retrouver les tanins en fait, qu'on retrouve dans le vin rouge, où on a plus de tanins dans le vin rouge que dans le vin blanc. J'ai juste ou j'ai pas juste?
C'est tout à fait ça.
Yes! J'y connais en vin.
J'en doute pas.
Je suis pas qu'un citadin. Hein.
Ouais. J'ai jamais dit ça.
C'est pas ça. On avait ça, hashtag pur. Hein.
Hashtag pur, yeah. Hashtag pur. Ah, alors déjà, on a le... Moi, je connaissais votre funambule, je connaissais Naturumli. C'est vrai que les deux autres, je les connais pas et je les attendais. Mais je mens bien. Alors, donc on est sur un vin orange. Je dirais, courte macération, il y a un peu de Gewürz, mais il y a un autre derrière.
Bon, ouais. Il y a un point.
Pinot blanc?
Non, il y a du muscat.
Muscat? Ah, il n'y a même pas de Gewürz?
Donc c'est Gewürz, muscat, et encore du Sylvaner.
Ah, le prince du cépage, d'accord. Donc le côté floral, et c'est quoi? C'est une macération de assez courte?
De 5 jours, oui.
Les trois cépages?
Oui.
Ils ont été vendangés le même jour. Donc on a vendangé un cépage après l'autre pour arriver à 50% de sylvaner, 25% muscat, 25% gewürz. Donc à chaque fois, vendangé par volume. Donc voilà, pour respecter cette proportion. Donc on a toujours voulu garder... ce qu'il faut savoir, c'est que le sylvaner, c'est le cépage roi chez nous. C'est un terroir où le sylvaner est historique, qu'on a été nos grands-parents. Et donc, en fait, on a vu toujours le sublimer. Donc, on est à 50%, ce qui permet d'amener de la digestibilité, d'avoir des vins frais, goulayants, faciles à boire. Ça, c'est notre ADN. Clairement, nous, on est avec Nico, c'est l'objectif, c'est de faire des vins qu'on se fasse plaisir, que les gens reviennent, que la bouteille soit vide le plus vite possible. Mais ça, on le fait en faisant des vins, comment dire, je dirais pas lourds. Et c'est vrai que le Sylvania nous aide bien. On a le Gewürz qui ramène le côté fruité, épice, mais sans le côté exaspérant du sucre. Ça donne du terroir qui ressort plus le côté épicé. Et après, on a le muscat qui amène le côté croquant, floral et qui amène une touche de fraîcheur.
On parlait de tanin tout à l'heure. Je me faisais une réflexion là, à l'instant quand je l'ai goûté. Souvent, on retrouve beaucoup de tanin dans les vins oranges. Là, je trouve que c'est plutôt léger. Ils ne sont pas trop présents. Je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui n'aime pas trop les vins rouges, parce qu'il y a justement le côté tanin, et celui qui ne sait pas trop ce que c'est les vins oranges et qui n'ose pas parce que c'est la première fois qu'il goûte, je trouve que pour une initiation au vin orange, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
C'est vraiment ce qu'on recherchait. C'était vraiment, comme dit, il y a l'héritage de nos parents. Voilà, ils faisaient des vins bio depuis une dizaine d'années, mais on va dire classiques. Mais aussi, justement, toute cette tranche de gens qui dégoûtent les vins nature et qui n'ont pas forcément l'habitude et où ça passe très facilement. Où les gens, même en restauration, c'est des vins qu'on peut facilement boire, qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut sortir à n'importe quel moment du repas. C'est pas comme... On veut vraiment sortir du cliché du Gewürz où on est vraiment bloqué avec des vins moelleux, on sait pas quand les servir. Et là, on est vraiment sur les jeux de digeste où l'objectif, c'est toujours avoir de la minérité, de la tension et de la fraîcheur.
En tout cas, moi, je trouve que c'est un très bon vin. Après, c'est vrai qu'il est encore un peu jeune et j'aimerais bien voir comment il va évoluer. Mais c'est très bon. Moi qui suis un amoureux des vins oranges, t'aimes bien les vins oranges?
Pour l'avoir on va dire suivi depuis l'avant-ange, il a que évolué dans le bon sens. Donc
t'en buvais déjà avant?
Un petit peu avant, avec Flo on a plutôt cherché à découvrir ça, enfin quand même un peu avant de se lancer, et au fur et à mesure que je goûtais, on a beaucoup trié à la récolte, et puis après au fur et à mesure il a fait Saint-Malo et puis derrière élevage Solifine jusqu'à la mise. Et c'était de plus en plus ouvert. Et puis là, maintenant, on ne peut que s'attendre à quelque chose de bien sur le long terme, quoi.
En tout cas, il suit le mouvement de Funambule et Nature Oubliée. Donc moi, ça me plaît. En ce moment, vous avez 4 cuvées hein, pour le moment, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc on a une bulle. On a un blanc qui a été macéré à base de Sylvanaire, donc la plus vieille du vignoble. Qui date de 1925. Et on a donc un orange qui va arriver là et un rouge.
Très bien. Allez, place au deuxième vin. Va Stringmar. Une petite bulle. Oh, c'est joli, mon pou. Ça, c'est très bien, ça. Ah, une petite bulle. Donc, c'est le Petnat. Alors, je sais que tu as déjà fait des Petnat il y a 10 ans.
Oui, donc on a. Ça, c'était. C'est le 21. En fait, on a fait donc des pétillants naturels avec Nico, qu'on avait 16-17 ans, Nico avait 12-13 ans. Donc voilà, il y en a qui jouent à la PlayStation, nous on faisait du vin, voilà, c'était un peu notre dada. Et en fait, c'est venu...
J'aimerais bien me mettre le nez dedans parce que en fait, tu sais pourquoi? Parce que je sais pas si les pétillants vieillissent bien ou pas.
En fin de compte, malgré notre amateurisme, il se tient très très bien.
Très très bien. Bon, on va falloir goûter un de ces quatre. Hein. On reviendra goûter quand on parlera de votre lieu-dit, là, le Champ Libre.
Voilà, c'est ça.
Freiberg, c'est ça? Freiberg. Bon, alors, le Petnat, j'avoue que je l'ai déjà goûté plusieurs fois, que j'aime beaucoup ce Petnat-là, que Nico m'en a donné 4, 2 qui étaient.
Merde.
Dégorgé, je cherche le mot. Donc deux, c'est là où c'est bien de couper, que je passe pas pour un con. Deux qui étaient dégorgés, deux qui n'étaient pas. Bon, j'avoue que les noms dégorgés, j'ai pas été un grand fan. J'ai même trouvé ça très plat et très. Personnellement, déjà, alors, je préfère les vins non filtrés que les vins filtrés. Je crois que je bois quasiment que ça. Même si, je sais pas quand j'ai bu un vin non filtré. Donc, je suis en train de réfléchir en même temps. Et il y a une différence, Nico, sur les... C'est quoi la différence entre des vins filtrés et non filtrés?
Moi, je dirais juste que le vin filtré, c'est un vin qui est un peu dépouillé, quoi. Et là, ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec le Pet Nat. On voulait avoir quelque chose où voilà, il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, pour peut-être pas effrayer, mais en fait, je pense qu'on a fait une erreur. Et puis là, enfin, on l'a fait au premier coup et on ne la fera plus, quoi. Enfin, c'est. Maintenant, enfin, oui, dégorger, c'est. Enfin, il ne faut pas s'interdire des choses, mais on va sans doute plus le faire, quoi.
Et justement.
Une fois qu'on goûte ben, du non-dégorgé, ben, on a une autre surprise, quoi.
Je trouve que c'est plus gourmand, mais comment ont réagi les gens au début? Parce que bon, ils ont l'habitude du papa, qui était vin classique, filtré, ce qui est très bon, hein. Attention, on ne nous jette jamais la pierre pour des gens, des indépendants qui travaillent correctement leur vigne. Voilà, ils ont filtré, c'était comme ça à l'époque, et ça se vendait comme ça à l'époque. Les choses ont évolué aussi, il faut quand même qu'on replace les choses aussi dans leur contexte, c'est important. Mais comment réagissent les gens aujourd'hui avec vos vins? Parce que ben, on passe quand même du grand ballon à l'Everest, quoi.
En fait, les gens, au départ, voilà, il a fallu un peu de temps. Mais en fait, de jour en jour, les gens sont de plus en plus ouverts. Parce que voilà, bien sûr, les gens s'habituent, ils entendent parler, on en parle. Ils voient que de plus en plus de gens consomment. On leur en parle. Maintenant, nos parents, ils sont à fond derrière nous. Donc, ils en parlent aussi plus facilement à leurs clients. Donc, derrière, les gens passent plus facilement de l'un à l'autre.
En tout cas, moi, je trouve que le Petnat, alors c'est très Petnat, peut-être un peu plus de bulles, c'est ce que moi je dirais, mais je pense qu'il est déjà ouvert depuis un certain temps. Mais sinon, c'est gourmand, il y a du fruit, franchement, là, il va faire beau. Ça, c'est le genre de Petnat. Moi, je dis toujours, il y a des vins qui le vin va toujours faire partie d'un événement, d'une soirée entre amis, dans la famille. Il y a des vins, tu vas en parler. Parce qu'à un moment donné, tu as un effet, tu as une émotion, et le vin donne une émotion. Et tu as des vins, bah, moi, c'est celui-là qui va, il va participer à la conversation sans forcément qu'on en parle. Il va accompagner la conversation, il est là. Il fait sa présence dans nos verres, dans le moment que vous allez passer avec les gens qui sont autour de vous, que vous aimez. Et pour moi, il est dans cette catégorie-là. Donc, de toute façon, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise catégorie. Il fait partie de l'histoire. Et je trouve que pour moi, le Petnat, c'est vraiment ça. C'est le côté vraiment festif. J'ai envie de dire, alors je suis peut-être un peu abusé, mais c'est un peu la blonde que tu ouvres, la bière blonde que tu ouvres parce qu'il pour désaltérer, c'est très bien. Même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de Petnat gastronomiques. Tu es d'accord avec ça?
Bah justement là-dessus c'est ce qu'on recherche également justement avec le nom dégorgé. Donc là ce qu'on a goûté c'est le 2020. Justement comme dit c'était notre première cuvée de Petnat à taille à grande échelle où on se faisait la main. C'est vrai que le 2021 on a appris de nos expériences justement où l'objectif c'est de le 21 on le dégorgera pas, on ne touchera pas. Mais on a changé le mode de vinification qui permet d'avoir quelque chose de plus net. Donc vraiment d'avoir un Petnat gastro plus équilibré, sans dégorgement.
En tout cas, moi, je trouve que votre Petnat, ouais, la preuve, hein, je l'ai goûté en juillet 2021, ouais, il est toujours marqué. Ça veut dire que ouais, c'est comme une chanson, en fait. Finalement, c'est des petits cailloux. Il y a toujours des vins aussi, en fait, c'est des petits cailloux que tu as. Et pour moi, il fait partie de ce caillou-là. D'ailleurs, sans ce Petnat-là, je ne serais peut-être pas là. Donc finalement, c'est le début d'une histoire. Alors, on passe au troisième vin. Qu'est-ce qu'on goûte? Ah, attention, le Pinot Noir, hein. Je suis critique sur les pinots noirs. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais goûté. Alors, donc là, on est sur le pinot noir qui. C'est quoi le nom? C'est une des nouvelles cuvées, c'est ça?
Oui, donc c'est une cuvée terre à terre. Donc c'est une rencontre de deux terroirs qui se rencontrent. Donc c'est un terroir qui est le grès et le calcaire qui se rencontrent. Et on est sur des terroirs les plus chauds de Béarnzuller. Donc on est sur des vins qui sont très puissants, mais qui gardent toujours une belle fraîcheur de nos terroirs qui sont justement composés d'argile. Qui permettent d'avoir des vins équilibrés même en période de canicule. C'est vrai que c'est un problème actuellement, c'est les changements climatiques. Et c'est vrai que la chance qu'on a, c'est que nos terroirs tiennent le changement. Malgré les fortes chaleurs, on arrive à garder la fraîcheur dans le vin. Et donc là, on est sur un rouge justement où, qui a été macéré une dizaine de jours.
Non, moi je pensais plutôt que c'était vous qui étiez terre à terre, non?
On est aussi terre à terre, c'est clair, c'est juste. Après, on est aussi deux. Terre à terre aussi, c'est deux terroirs qui se rencontrent, mais c'est aussi deux personnes. C'est ce qui est prévu sur l'étiquette, c'est que voilà, il y a Flo et Nico, on est deux, on a toujours été deux, depuis toujours. Et donc on est vraiment, c'est deux terroirs qui se rencontrent, mais c'est aussi deux personnes, deux frangins. Une forte amitié, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est ce qu'on a aussi voulu.
Donc c'est ton meilleur ami?
Ah bah oui.
Donc c'est ton meilleur ami?
Ben ouais.
Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui me plaît chez les jeunes vignerons. J'ai ressenti ça chez... Bah, chez Théo, mais bon, chez Théo, on est potes, donc forcément, c'est pas toujours très objectif. Chez les Gups, chez toi, chez Morer, je trouve que souvent, on dit qu'il faut, une certaine expérience pour faire un beau rouge. On entend ça souvent dans certaines régions, la Bourgogne, le Bordeaux, sans le citer. Moi, alors, j'aime beaucoup les vins blancs. Je bois, de toute façon, 90% des vins que je bois, c'est des vins blancs ou des vins oranges. Moi, je trouve que j'ai l'impression que le Pinot Noir vous révèle encore plus que les vins blancs. Et même s'ils ont des émotions particulières, je trouve qu'il y a un truc avec les Pinot Noirs que vous faites que moi, je n'ai jamais rencontré dans les années... je suis un peu plus vieux que vous. C'était juste pour préciser ça. Voilà. Mais ouais, je trouve ça très gourmand. Et ben, on parlera aussi, et ça serait bien qu'on parle aussi de l'artiste qui fait les étiquettes, parce qu'elle s'appelle
Lucille Frelly.
D'accord, et que vous êtes rencontrés, alors je crois, et il y a mon petit doigt qui m'a dit que vous êtes rencontrés dans un cabaret.
Ouais, on s'est rencontrés au cabaret.
Qu'est-ce que tu fais au cabaret, toi? Madame était là.
Majestac Madame, on a fait un repas avec son CE, on a fini à table avec elle et on a discuté, ça s'est super bien passé et derrière on s'est revu pour ses étiquettes.
Et justement, vous êtes rencontré à Kirviller, pour dire Royal Palace, c'est quand même un cabaret alsacien, on va pas non plus bouder notre plaisir, hein. Il n'y a pas que le Moulin Rouge, hein, en France, hein, il y a aussi Kirviller. Ah bah oui, on est chauvin, on ne l'est pas. Du coup, est-ce qu'elle t'a expliqué, donc Champ Libre c'est le vin orange, c'est ça? Et donc là, c'est terre à terre. Est-ce qu'elle a expliqué comment elle a créé les étiquettes?
Bah, l'idée, c'est qu'elle s'inspire de ce que nous, des lieux, du domaine. On lui a expliqué comment on le faisait, comment l'histoire du domaine. C'est ça qui l'a inspiré. Et donc, en fait, on travaille vraiment sur quelque chose de très personnel. On ne veut pas faire quelque chose comme tout le monde. Donc, justement, là, le terre à terre, c'est deux terroirs qui se rencontrent. C'est deux personnes qui se rencontrent. Mais on le développe justement pour que les gens, ils aient vraiment... c'est vraiment un vin de rencontre. C'est un terroir qui se rencontre, c'est nous qui se rencontrons, mais c'est aussi un vin de partage et qu'on veut retransmettre dans le vin. Et ça, c'est important que l'étiquette reflète ça.
Bah, j'aime beaucoup ce que tu dis, mais c'est très important parce que les vignerons en nature ont aussi une attache un peu artistique avec de plus en plus. Hein. Qu'est-ce qui t'apporte, ton frère?
Mon frère, c'est un équilibre. C'est le rationnel. Parfois, je peux m'emballer, je peux parfois partir en sucette ou parfois faire le con et Nico me ramène sur terre. Donc, ça me permet d'être équilibré dans ma vie. Et dans le domaine, bien sûr.
Qu'est-ce qui t'apporte, ton frère?
Ben, beaucoup d'idées. Et comme il l'a dit derrière, c'est... Par contre, souvent, ben, on en parle tous les deux. Ça, on fait. Ça, on va peut-être pas faire tout de suite. C'est peut-être... Déjà, on se dit on peut pas tout faire. Et
c'est toi qui dis ça ou c'est lui?
Chaque chose en son temps.
Mon ami, il serait déjà au
traite. Tempéré un peu.
Il aurait déjà planté de la vigne sur le Saint-Odile. Hein.
Saint-Odile, ouais. Peut-être.
Raser le Saint-Odile.
Ouais. On aurait eu d'autres problèmes entre-temps si on avait...
Bon, la patronne, hein, un peu de respect pour la patronne de la Z. Et quand même... Hein,
le respect qu'elle nous protège.
Voilà, qu'elle nous protège encore longtemps, parce que vu les temps qui courent dans ce monde, on a bien besoin de nous protéger. Buvez du vin, ça fait du bien. C'était c'était le côté publicité. Le vin est un lubrifiant social, avec modération, évidemment. Toujours, hein, modération
ouais.
Émorcale.
Émor.
Mais je parle alsacien aussi, hein, et c'est pas parce que j'habite Strasbourg que je parle pas alsacien. Ording. Non, mais c'est vrai que pour en revenir à ce Pinot Noir, on s'est un peu éloigné, mais c'est pas grave. On a mangé, on a un peu bu à midi, hein, ça se ressent peut-être, mais au moins on est des bons vivants. Moi, je trouve, voilà, vraiment le Pinot Noir chez les jeunes vignerons, et je me suis fait la réflexion un peu, et là je me refais à cette réflexion, c'est des vins que souvent on dit, voilà, il faut avoir une expérience pour. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. Bon, c'est pas le Stade de France, mais c'est très bon quand même.
En fait, le Pinot, mon père s'est joué de son dada. Et en fait, nous, il nous a un peu transmis cette passion. Et c'est vrai qu'on a c'est toujours été un challenge, en fait, le Pinot. Parce que là, comme dit l'Alsace, c'est pas forcément la région à rouge. Mais on a des terroirs qui sont très intéressants pour le rouge. La rigueur qui permet parfois d'extraire des choses. En fait, on essaie de chercher la même buvabilité qu'on a dans un blanc, la finesse. Et c'est ça qui nous intéresse, parce qu'en fait, tous nos rouges, que celui-ci ou celui d'avant, on n'est pas sur, on ne cherche pas la planche. On est en élevage en foudre en bois, mais on cherche quelque chose de fruité, gouléant, avec de la finesse. On aime bien chercher ça. Et c'est vrai que ça met la diversité. Il y a des blancs, il y a des rouges, des oranges, et ça nous fait triper, clairement.
Mais c'est vrai que le dérèglement climatique, là, tu sens que tu as un peu bu un peu avant. Le dérèglement climatique, c'est vrai que malheureusement, il donne un peu d'aplomb au pinot noir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi, je sais que mon petit doigt me dit qu'il y a un cépage particulièrement qui est à Berlin-Zuider. Un cépage qui est un peu le. Alors souvent, on dit que le Riesling, c'est le roi des cépages en Alsace. Mais on cite souvent le Zuider, parfois il est oublié. D'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça que le nom s'appelle Nature Oubliée. On sait aussi que les politiques du vin en Alsace ont essayé de l'arracher et pensent toujours à l'arracher parce qu'il, visiblement, il ne sert à rien. Alors que ce sont, excusez-moi, c'est moi qui le dis, hein, mais c'est quand même con de devoir arracher ça. Moi, j'ai envie de parler du Sylvaner parce que moi, j'adore le Sylvaner, même si pour moi, c'était avant le Sylvaner, c'était le cépage de 7/7 avec la charcuterie industrielle dégueulasse du dimanche soir où on se faisait chier parce que le lendemain, tu reprenais ou l'école ou le boulot. Mais aujourd'hui, je trouve que ce que le vin nature a apporté ou même la biodynamie a apporté au Sylvaner, c'est juste exceptionnel. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
En fait, le nature et le bio, bien sûr, amènent vraiment... On retrouve les Sylvaner justement qui digestent avec la buvabilité, qui ont des rendements modérés, bien sûr. Parce qu'il n'y a que des vieilles parcelles de Sylvaner actuellement, donc... Forcément, on aura des petits rendements.
1925, hein, je crois que c'est...
Oui. Donc la parcelle, justement, de Nature Oubliée, c'est de 1925. Donc, ça a été planté par notre arrière-grand-père, après le phylloxéra. Donc c'est vraiment qu'il l'a greffé lui-même. Vraiment, c'est des pures sélections de Berlin-Zuider. Et en fait, quand mon père a repris le domaine, il était à 80% de Sylvaner. Donc c'est vraiment le cépage emblématique du vignoble.
Rendez-vous compte que vous faites du vin avec des vignes qui ont 97 ans. Juste ça.
Oui, clairement, et on va les garder.
Non, mais bien sûr, mais c'est juste se dire 97 ans.
Ah oui, c'est dingue, hein. C'est fou. Hein. Je veux dire, c'est des parcelles. À l'époque, c'est vrai que quand on était jeune, quand on avait 12, 13, 14 ans, on dirait putain, ça fait chier, c'est des boules, c'est des vignes à la con, c'est chier, on doit faire tout à la main. Enfin, on disait, attends, on l'arrache quand. Mais maintenant, quand on voit la vraie valeur des choses, de ce qu'on est capable de faire dedans, on ne touche pas.
Et ça te fait quoi de se dire, tu travailles des vignes qui ont vécu, alors même si c'est pas des personnes, mais vécu l'histoire de ce pays et de ce monde, parce que 1925, elles ont connu la Deuxième Guerre mondiale, enfin tout ce qui suit derrière, c'est impressionnant, non?
On se dit que nous, à côté de ça, on n'est pas grand-chose, en fait. Et du coup, on essaie d'en tirer ce qu'on peut en tirer, et puis de marquer ce qu'on peut avec justement ce qui est là vis-à-vis de cette parcelle-là, quoi. Parce qu'il y a quelque chose à faire, et à la rigueur... comment dire, c'est quelque chose qui est plus ancien que nous, et voilà, c'est à nous de le faire vivre derrière, quoi.
On le goûte, ce Nature Oubliée? Allez, c'est parti. On va goûter une Nature Oubliée. Ah, moi, j'aime beaucoup Nature Oubliée. Je sais que je suis assez... Vous l'avez? Ah, ils l'ont pas. Ils l'ont oublié. Mais c'est pas grave, on va le boire à la maison. Ouais. Bon, voilà. Oh, il est bon, Nature Oubliée. Voilà, c'est bon. Allez. Bien, on a fait une belle dégustation, 4 cuvées. Moi, je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point des jeunes vignerons osent, font les choses bien. On va passer un petit peu à la partie un petit peu personnelle où je vais vous poser des questions comme ça à la volée. Comme ça me revient, il y a des choses que j'ai préparées dans la tête depuis longtemps. Il y a des choses qui viennent me revenir. Florent, avant l'amour, tu bois quoi?
Avant l'amour, je bois quoi? Du Funambule.
Ok. Après l'amour, tu bois quoi?
Après? Du Pinot Noir.
Chez toi, je suppose?
Oui.
D'accord. Bon, c'est très bien. Est-ce que tu es romantique?
Oui, tout à fait. Je suis quelqu'un de très romantique avec ma chérie, les vignes, les personnes. Je suis quelqu'un de très romantique.
C'est quoi le défaut que tu détestes chez les gens?
Moi, je.
L'égocentrisme, t'aimes pas ça?
Non.
Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt une bonne réponse. Si t'avais un... Là, demain, on te dit, tu dois choisir un domaine en Alsace. Tu dois prendre le domaine de quelqu'un. Tu choisirais qui. Tu voudrais être quel vigneron ?
Quel vigneron ? Quel vigneron ? Quel vigneron ? C'est compliqué parce que j'en prendrais plusieurs.
Bah, tu peux faire un cocktail, hein, ça me dérange pas. Hein.
Bah, je prends je pourrais prendre Lidour Horaire, je prends Théo.
Einhardt ?
Ah, Théo, c'est pas mal, c'est, ça me correspondrait bien. Ludo aussi, Horaire. Je prendrais aussi David aussi.
Que Berlay ?
Ah, ça aussi, quelque chose qui. Un domaine qui me plaît bien. Jean-Pierre Frick aussi.
Ça va, c'est plutôt bien.
Voilà. C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Je trouve que le quatuor, il est plutôt pas mal. C'est quoi la chose que tu n'as jamais dit à ton frère que tu aimerais lui dire maintenant ?
On se dit tellement de choses et... enfin.
Qu'est-ce que tu lui as jamais dit ?
Je sais pas, on se dit tout.
Ouais, mais...
On se voit tout le temps, on est tout le temps au téléphone, on se voit où il y a... Enfin, je sais pas...
T'es fier de lui ?
Ben ouais, j'espère, enfin heureusement.
Pas la même question. C'est quoi que t'as jamais dit à ton frère ?
Ouais, je sais pas.
Est-ce que tu voudrais lui aussi ? Il est pas là, qu'est-ce que tu voudrais lui dire en fait ?
Bon, ben, je lui dis tout, comme également lui. Après, voilà, je suis toujours... On va dire, je suis toujours très fier de ce qu'il fait, de ce qu'il donne comme idée, de ce qu'il fait. Parce que parfois, je suis très... Je suis impressionné de ce qu'il fait, donc... voilà.
Moi, je trouve que c'est toujours magnifique de voir des frères, des familles comme ça qui travaillent ensemble. On sait combien, dans certaines familles, c'est très difficile pour certains vignerons de pouvoir s'exprimer. Vous avez cette chance-là. Et pour connaître un peu l'histoire de certains vignerons, c'est vraiment une chance que vous avez tous les deux de pouvoir faire, d'être libre. Être libre quand on est vigneron, c'est quand même pas mal. De ne pas être dépendant d'un chiffre d'affaires ou d'une façon de faire. Et ça, je trouve que c'est plutôt une richesse. On a peut-être tendance à l'oublier. Et je trouve que voilà, garder cette fraternité entre vous, parce que je pense que c'est votre force. Toi, il faut que tu sortes un petit peu plus, que tu montres un petit peu ta bibine. Hein, ce serait pas mal. Parce que tu as des choses à dire, contrairement à ce que tu penses, tu as beaucoup de choses à dire. Moi, je pense que voilà, c'est l'histoire de notre région. Là, on sait que l'Alsacien est parfois un peu bourru, un peu fermé, un peu centré sur lui. Il a du mal à révéler ses émotions, surtout quand tu as des vignerons qui te parlent d'émotions dans le vin, qui ont du mal à sortir leurs émotions. C'est plutôt pas mal. Non, mais non, monsieur, hein, tu n'es pas d'accord ?
Tout à fait d'accord.
Il se cache derrière les émotions du vin, mais c'est plutôt pas mal. Comme je dis toujours, nous, on veut raconter des histoires et des belles histoires. Et le Domaine Motte, c'est encore partie de ces belles histoires, ces histoires familiales qui sont en fait finalement des histoires beaucoup alsaciennes qui, à travers les âges, à travers les décennies, ont vécu des histoires et font aussi partie du passé, du présent et, je le souhaite, du futur. Mais ça, c'est une autre histoire et dans 20 ans, il y aura peut-être quelqu'un qui nous racontera l'histoire du Domaine Motte, mais... Eh ouais, ça passera par là. Mais en tout cas, moi, j'étais content. Un petit mot pour la fin. Allez, Nico.
Ben,
est-ce que t'as passé un bon moment ?
Un bon moment, et puis ce qu'il faut retenir, c'est buvez du vin.
Moi, j'aime bien. T'as passé un bon moment ?
Très, très bien. À refaire quand tu veux. Hein.
Ouais, bah, la semaine prochaine.
Tu sais, nous, tu prends le mot, hein, nous, on te suit. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'on se bat pour défendre et je crois que je suis plutôt fier de ça. C'était le premier épisode depuis longtemps et j'avoue que ça m'avait un petit peu manqué. Comme dirait l'autre, buvons modérément, buvons libre, mais surtout buvons Alsace. Est-ce qu'on peut remplir nos verres ? Parce qu'on va faire en gros un truc que moi j'aime beaucoup parce qu'on est en Alsace. Et en Alsace, ce que tu veux, tant qu'il y a du vin, on veut pas de l'eau. Est-ce qu'il...
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.